Vivacité, ma radio complicité.
Bon jeudi, les 8h. À la une de l'actualité ce matin, du neuf dans l'espace.
Notre système solaire comporterait finalement 9 planètes et non pas 8. Des astronomes soupçonnent l'existence d'une nouvelle planète très grosse et très lointaine.
Une masse au moins 10 fois la masse de la Terre et serait au moins 700 fois la distance Terre-Soleil.
Quels sont les éléments qui permettent de dire qu'une neuvième planète existe? Lionel de Neubourg nous l'explique dans une minute. Faut-il prolonger la présence de l'armée dans les rues? Le gouvernement fédéral décidera ce matin, mais quoi qu'il en soit, les militaires ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Un peu moins de vacances d'été pour les députés fédéraux. Un préaccord a été trouvé pour avancer de plusieurs semaines la rentrée parlementaire. Dans certains cas, les députés devront même travailler au mois d'août. Une connexion internet gratuite pour les personnes qui ne peuvent pas se l'offrir. Un projet de loi existe en France. Nous verrons où en est la réflexion en Belgique. Le Standard prend une belle option sur la finale de la Coupe de Belgique de football. Les Liégeois ont battu Genk 2-0 hier soir. Et puis David Goffin est le seul Belge encore au lice à l'Open de tennis d'Australie. Kirsten Flipkens a été éliminée cette nuit.
Avant toute chose, la fin de la grève des bus en région liégeoise.
Oui, une grève spontanée s'était déclenchée ce matin pour une question d'horaire de l'un des chauffeurs. Plusieurs lignes étaient paralysées, mais le mouvement de grogne est désormais terminé.
Et cette question, y a-t-il 9 planètes dans le système solaire et pas 8 comme on le pensait?
C'est en tout cas la théorie d'astronomes américains persuadés qu'il y a une autre planète très loin d'ici. Lionel de Neubourg, une planète qu'ils n'ont pas encore vue, cela dit.
Non, ils ne l'ont pas encore vue, mais ils soupçonnent sa présence sur base de modèles mathématiques, de simulations par ordinateur. En fait, ils déduisent sa présence en fonction de ce qui se passe autour d'elle. C'est comme ça qu'on avait découvert Neptune au milieu du 19e siècle, par ricochet en quelque sorte, comme l'explique Mike Brown, l'astronome qui annonce cette 9e nouvelle planète.
La seule explication qu'on a pour expliquer toute une série de comportements très étranges, c'est qu'il y a une gigantesque planète, une planète qui a 10 fois la masse de la Terre, beaucoup, beaucoup plus loin que Neptune sur une orbite elliptique. On ne l'a pas encore vue, mais on voit son influence gravitationnelle sur la partie extérieure du système solaire. Donc on sait qu'elle est là et on commence à regarder.
Alors, cette nouvelle planète sortie d'un chapeau, est-ce que ce n'est pas un peu farfelu, Lionel?
Alors, pas tant que ça, déjà parce que les astronomes dont on parle, ce sont des pointures, ce ne sont pas des oiseaux. Et en plus, observer une planète aussi loin, c'est très compliqué. Cette éventuelle 9e planète, elle serait à 700 fois plus loin que la Terre du Soleil, dure de la repérer. Donc, Yael Nazé, astrophysicienne à l'Université de Liège.
On commence seulement depuis les années 90 à explorer, entre guillemets, cette zone, à essayer de découvrir les objets qui se trouvent là-bas. Ils sont très loin, très froids, donc très faiblement lumineux, et donc c'est très difficile de les repérer.
Et difficile à dire à quoi elle pourrait ressembler aussi tant qu'on ne l'a pas vue. Pour la débusquer, il faut sortir les télescopes, mais ça risque d'être compliqué, préviennent les astronomes. Avant de vous quitter, Christophe, replonger 30-40 ans en arrière en primaire, rappelez-nous, et 8 autres planètes.
Oh là là,
Mercure, Vénus, oui.
Saturne.
C'est bon.
Mars. Jupiter.
Ouais, Jupiter.
Oui.
Mercure, on l'a dû, Vénus, Terre.
Et Pluton, c'est plus une planète, donc.
Pluton, ce n'est plus une planète. Elle
Uranus.
A été déclassée. Uranus, c'est bien. Et encore Neptune, et on y est, la huitième. Voilà, le
on s'en sort pas mal.
Oh, bah ouais, à 3, on y arrive. Merci Lionel. Et pendant ce temps, la Terre se réchauffe. 2015 fut l'année la plus chaude depuis que les relevés de température existent, depuis 1880. Le record de 2014 a été battu. Selon les autorités américaines, cela démontre une accélération du réchauffement de la planète.
On devrait en savoir plus aujourd'hui sur la personne interpellée hier après-midi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Oui, le parquet fédéral communiquera dans la matinée. Cette personne a été interpellée lors de perquisitions menées chaussée de gants à Molenbeek, des perquisitions liées aux attentats de Paris, a déjà précisé le parquet fédéral. Pendant ce temps, des militaires sont toujours présents dans les rues. Le gouvernement fédéral avait pris cette mesure jusqu'au 20 janvier, autrement dit hier. Sébastien Pierret, est-ce que ça veut dire maintenant que les militaires vont réintégrer leurs casernes?
Non, pas tout de suite, car la menace terroriste n'a pas changé. Elle reste à 3 sur une échelle de 4, c'est-à-dire qu'un attentat reste possible et vraisemblable. Et c'est justement ce niveau d'alerte qui a justifié le prolongement du déploiement de 700 militaires en décembre dernier. On imagine donc mal que tous les militaires rentrent d'un coup dans leur caserne. La surveillance accrue des bâtiments sensibles, comme les lieux de culte juifs par exemple, ou la surveillance de gros événements reste nécessaire. Le Conseil des ministres se penchera sur la question demain. Le nombre de militaires déployés en rue pourrait tout de même diminuer, car il ne faut pas le perdre de vue, ce déploiement a un coût.
Et toujours à propos de la lutte contre le terrorisme, le directeur de l'Institut Hannesen Funk à Bruxelles risque la suspension. Son pouvoir organisateur lui reproche de ne pas avoir signalé assez vite la radicalisation d'un élève, et cet élève, c'est Bilal Hatfi, l'un des kamikazes du Stade de France. Après les attentats contre Charlie Hebdo, Bilal Hatfi avait tenu des propos extrémistes en classe. Il avait ensuite disparu, mais l'école n'a prévenu les responsables de l'enseignement que 2 mois plus tard. Le cas de ce directeur sera évoqué ce matin devant le Collège des bourgmestres et échevins de la ville de Bruxelles.
Il est 8h06, les députés fédéraux devront sans doute écourter leurs vacances d'été.
Oui, un préaccord a été trouvé pour anticiper d'environ 3 semaines la rentrée parlementaire. Au lieu du 2e mardi d'octobre, ce serait le 3e jeudi de septembre. Par ailleurs, l'ensemble des commissions parlementaires reprendraient leurs travaux dès le 1er septembre, et même plus tôt si nécessaire. Jean-Marc Nollet, le chef de groupe écolo à la Chambre.
On a aussi obtenu que pendant les vacances, si l'actualité politique le nécessite, les commissions pourront être convoquées sans que le ministre concerné n'ait encore le moindre droit de veto. On a vécu ça l'année dernière. On voulait avoir un débat sur le tax shift, hein, puisqu'il y a eu beaucoup d'annonces du gouvernement fin du mois de juillet, mais le ministre des Finances, M. Van Overtel, pour ne pas le citer, avait décidé de refuser le débat parlementaire. Il avait le droit, en fonction du règlement, et tout débat a été occulté, a été empêché. Désormais, le débat politique pourra avoir lieu en commission dès le 1er septembre. Le veto des ministres est retiré du règlement de la Chambre.
Le député fédéral écolo Jean-Marc Nollet, interrogé par Michel Lagaze. C'est le groupe Écolo Groen qui avait lancé cette idée d'avancer la rentrée parlementaire. À l'heure qu'il est, il n'y a donc qu'un préaccord pour écourter les vacances, mais la confirmation devrait tomber la semaine prochaine. La déclaration de politique générale du Premier ministre, elle, resterait fixée au 2e mardi d'octobre, comme c'est le cas actuellement.
Comment lutter contre la fracture numérique ? La France a un projet sur le feu.
Oui, un projet de loi pour maintenir une connexion Internet aux personnes démunies, même si elles n'ont plus les moyens de la payer. C'est vrai qu'Internet est presque devenu aujourd'hui un bien de première nécessité, hein, comme l'eau et l'électricité. En Belgique, un tarif social a été évoqué, c'est-à-dire une réduction de la facture Internet, mais pas le maintien de la connexion en cas de non-paiement, comme en France. Ce serait pourtant une bonne idée, comme on va l'entendre dans ce reportage de Miguel Allot.
Geneviève élève seule ses 5 enfants avec un tout petit revenu. Un jour, elle n'arrive plus à payer ses factures d'Internet et pourtant...
C'est une priorité même petite que l'électricité, que le loyer. D'ailleurs, j'ai supprimé mes abonnements en téléphone, mais j'ai gardé la connexion Internet quoi, pour diverses raisons, parce que c'est un nouveau mode de communication comme avant le téléphone. Et donc, celui qui n'a pas Internet, il est forcément... un peu mise à l'écart de la société, automatiquement, je pense.
Pour la secrétaire générale du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, Christine Mailly, le projet de loi français est une bonne idée.
À partir du moment où l'orientation de l'organisation de l'ensemble d'une société repose sur le fait d'avoir l'absolue nécessité d'utiliser cela pour être partie prenante réelle, on ne peut pas ne pas trouver les solutions à ce qui empêche ça. Et donc, le coût de la connexion Internet est un problème réel pour des gens qui ont des maigres revenus.
En Belgique, mis à part l'obligation de prévenir son client avant une interruption du service, l'opérateur peut librement couper la ligne si les factures ne sont pas payées. Avant l'été, il y a bien eu des débats au Sénat sur l'inscription dans la Constitution d'un droit à l'accès Internet. Mais ces débats n'ont pas été plus loin.
Et l'avenir numérique, on en parle aussi à Davos, en Suisse. C'est le thème du Forum économique qui a commencé hier. Rendez-vous planétaire des hommes d'affaires et des hauts responsables politiques. La Belgique est emmenée par Philippe et Mathilde et le gouvernement fédéral est représenté par le vice-premier ministre Alexander De Croo, avec pour objectif d'attirer les investisseurs du numérique en Belgique.
C'est très important pour la Belgique d'être présent ici, ensemble avec le roi, avec la reine, pour expliquer que la Belgique est un endroit tout à fait attractif au cœur d'Europe pour des investissements internationaux et pour montrer que dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, celle du numérique, bah, la Belgique est un des meilleurs endroits d'Europe pour s'investir.
Certains s'inquiètent quand même de cette révolution numérique en disant qu'elle va laisser beaucoup de gens sur le côté, qu'il y a cette fracture numérique et qu'elle va avoir également un impact sur l'emploi.
Si on ne fait rien, en effet, il y a un certain risque et donc il faut gérer cela. Une des messages que je donne ici, c'est de dire qu'il faut beaucoup plus investir dans l'éducation, mais ça a aussi une opportunité énorme. Le seuil d'entrée pour l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi bas. Des petites entreprises belges peuvent s'adresser au monde entier d'une manière qu'on n'a jamais eu avant. Le développement au niveau international, je suis aussi ministre du développement et parle beaucoup de la situation en Afrique ici, bah, le numérique offre une des meilleures opportunités pour que la vie des gens puisse s'améliorer.
Alexander De Croo, interrogé à Davos par notre envoyé spécial Rachel Crivellaro. L'accueil des réfugiés remis en cause dans un nouveau pays de l'Union européenne. L'Autriche veut limiter le nombre de migrants sur son sol. Vienne veut désormais refouler à sa frontière les migrants qui tentent de rejoindre les pays scandinaves. La Commission européenne craint un effet domino.
Le 8-9 sport et cette victoire convaincante du Standard.
Oui, belle victoire hier soir en demi-finale aller de la Coupe de Belgique, 2-0 contre Genk. Ce Standard 2016 n'est plus vraiment le même, hein, Jérôme Elguers.
Non, on est bien loin du club qui occupait la dernière place du championnat en octobre. Avec l'entraîneur Yannick Ferreira, l'équipe a retrouvé de l'envie et de la motivation sur le terrain. Les transferts du mercato hivernal et le travail effectué en stage payent déjà. Sur ces 8 derniers matchs, le Standard a signé 7 rencontres sans encaisser. Avec ce 2-0, est-ce qu'on est devant un score idéal avant le retour à Genk dans 2 semaines? C'est la question posée par Manuel Jousse au médian liégeois Adrien Trébel.
Ouais, le principal c'était de pas encaisser, je pense. C'est ce qu'on a bien fait, on a bien défendu et ensuite on a réussi à marquer rapidement dans le match. Et derrière, on a été costaud défensivement et ça nous a permis de remporter ce match. Voilà, maintenant, contre une autre série sans prendre de but, c'est bien pour la confiance et j'espère qu'on va continuer.
C'est quoi la force de ce nouveau Standard quand on voit Lokeren ici contre Genk? Vous semblez inarrêtable.
Personne ne réchigne aux tâches défensives. Tout le monde travaille pour l'autre. Et aujourd'hui, on voit un Standard qui défend bien, qui a deux lignes de 4 dures à casser et ensuite qui n'a pas peur aussi de jouer au ballon. Donc c'est important. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Nous, on sait d'où on vient, on prend match par match et on continue de bosser.
Et on pourra réellement mesurer le niveau de ce nouveau Standard dimanche. Les Liégeois joueront contre Gand, l'autre équipe en forme en championnat.
Oui, et avant cela, la Gantoise disputera ce soir la deuxième demi-finale aller de la Coupe de Belgique. Ce sera contre le Club de Bruges, match à suivre en direct sur Vivacité. En tennis, c'est fini pour Kirsten Flipkens à l'Open d'Australie. La Belge s'est inclinée cette nuit dans son match du deuxième tour. Défaite 6-4, 6-2 contre l'Espagnol Garbiñe Muguruza, la troisième joueuse mondiale, mais des motifs de satisfaction tout de même pour Kirsten Flipkens, on l'écoute.
Je suis très bien entrée dans la rencontre. Dès les premiers points, le match était très intense. J'ai vraiment bien commencé. C'était très important contre elle. On sait que face à une joueuse d'un tel niveau, il faut être présente dès les premières balles. Jusqu'à 5-4, je faisais jeu égal. J'ai eu un peu de malchance à 3-3, mais l'un de mes services n'est pas rentré et elle, toutes ses balles étaient bonnes. Ce sont des détails qui font la différence, mais je peux être satisfaite de mon match.
Kirsten Flipkens s'interroge à Melbourne par la VRT. David Goffin est donc le dernier Belge en lice à l'Open d'Australie. Il jouera la nuit prochaine son troisième tour contre l'Autrichien Dominic Thiem, 20e joueur mondial et adversaire coriace. Enfin, une bonne nouvelle pour les fans de rallye. La saison 2016 de WRC reprend aujourd'hui avec le Monte Carlo. La première spéciale est à suivre ce soir en direct vidéo sur le site sport de la RTBF. Le Monte Carlo, un rallye mythique où notre compatriote Thierry Neuville inaugurera sa toute nouvelle Hyundai, une voiture qui doit lui permettre d'atteindre quelques podiums cette saison, si tout va bien.
Retrouvez le journal en podcasting sur www.vivacité.be.